hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Amélie Nothomb. Combien de fois avez-vous eu envie de vous suicider ?
Alors, il y a les grandes fois et les petites fois. Les fois vraiment très sérieuses, je vais dire deux fois. Mais sinon, comme tout le monde, une fois par jour.
Bah, pas comme tout le monde, non ?
Ah bon ? Non, mais c'est le plus souvent, le désir quotidien de suicide est un désir cathartique. C'est seulement quand on en a ras-le-bol de tout, ce qui est tout à fait normal et hygiénique. À ce moment-là, pensez... Oh, je voudrais en finir avec tout, je vais aller me pendre. On ne le pense pas du tout sérieusement, mais ça fait beaucoup de bien. C'est purement cathartique et ça permet de ne pas assassiner son voisin de métro, par exemple. Les désirs plus sérieux, je l'ai éprouvé. J'ai failli passer à l'acte. Je suis passée à l'acte à 3 ans. Et la deuxième fois...
Donc c'est vrai ce que vous écrivez.
Mais bien sûr que c'est vrai ce que j'écris. La deuxième fois à 19 ans, mais ça a été plus discret.
Et depuis, plus jamais. Ça veut dire que plus on vieillit, moins on a envie de mourir.
C'est pas du tout ça, mais j'ai un souvenir assez aigu de mes deux tentatives et je dois dire que c'était finalement très désagréable. Par ailleurs, je vais pas dire que je me suis fait assez de vie, ce n'est pas vrai du tout, mais je suis beaucoup plus confiante maintenant dans le fait que ça va se terminer tout seul. Et donc j'attends du haut de mes 47 ans, j'attends la fin du voyage.
À partir de quand vous avez eu la sensation de l'existence ?
À partir de mes 2 ans et demi, à partir du moment où ma grand-mère paternelle m'a mis un morceau de chocolat blanc belge dans la bouche. C'était au Japon. Auparavant, j'étais très 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 loin d'être sûre d'exister. C'est un doute dans lequel je retombe d'ailleurs en permanence. Et il n'y a guère que le plaisir physique, le plaisir des sens ou l'émotion artistique qui peut m'ancrer, qui peut me donner le sentiment de l'existence. Et la première fois que j'ai vécu cette émotion singulière qui donne le sentiment d'exister, c'était à l'âge de 2 ans et demi avec ce chocolat blanc belge.
Êtes-vous croyante ?
Oula, question très très difficile. C'est ici que, à supposer que vous ayez eu encore quelques doutes sur la question, vous allez comprendre que ça va très mal pour moi. Dans mes souvenirs qui précèdent mes souvenirs, c'est-à-dire avant le chocolat blanc belge dans mon berceau, j'étais dans un état d'indifférenciation entre Dieu et moi. C'est-à-dire que Dieu me parlait, mais c'était peut-être moi qui parlais. Donc c'était peut-être moi Dieu, vous voyez. Tout cela était parfaitement confus, je n'étais pas je. Il y avait une voix qui parlait en moi et qui était certainement Dieu, quant à savoir si je me confondais parfaitement avec cette voix ou si cette voix venait d'en dehors de moi, je n'en sais rien. Il s'en est suivi un naturel assez mystique. Hein. On ne vit pas impunément pendant 2 années et demie dans cet état d'indifférenciation théologale. Avec de fréquentes rechutes, surtout quand j'écris. Quand j'écris et que, par hasard, c'est loin d'être le cas tous les jours, mais quand tout à coup j'ai l'impression d'y être, vous voyez, de parvenir enfin à dire ce que je voudrais dire. Dans ces états de transe-là, ça me reprend. Je pense de nouveau que je suis Dieu. Et donc, comme je crois parfois en ma propre existence, je vais dire que je suis parfois croyante.
Donc, croire pour vous, c'est la continuité avec la sensation de l'existence.
C'est pas
la croyance à un être suprême qui ordonne le destin de tous les hommes.
Non, comment ? Je veux dire, je ne crois pas du tout qu'il soit possible qu'un être suprême ordonne le... Non, je crois en une forme de transcendance. Mais cette transcendance, j'ai plutôt tendance à la conjuguer à la première personne du singulier. Ça fait partie, j'imagine, de ma mégalomanie.
Vous pensez que vous êtes mégalomane ?
Bah, si je n'avais pas compris, après tout ce qui m'est arrivé depuis ma naissance, que j'étais franchement mégalomane, je pense que j'aurais quelques problèmes. La seule fois de ma vie que j'ai demandé un homme en mariage, c'était le futur empereur du Japon. Pourquoi ? Parce que c'est le fils du soleil. Il a refusé.
C'est bizarre.
C'est très bizarre. Moyennant quoi, je ne me suis pas mariée.
Et quand vous dites dans un de vos livres que vous êtes aussi puissante, aussi forte que la muraille de Chine, vous le pensez ?
Mais je le pense, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi, mais je suis absolument persuadée que tout le monde est pareil. Je veux dire, je suis la seule qui reconnaît ma profonde mégalomanie. Si on pouvait descendre aussi bas dans les autres que je descends bas en moi avec ce que j'appelle mon sous-marin, je suis sûre qu'on tomberait exactement sur la même mégalomanie, qui parfois est corrodée suite à des enfances pénibles. D'ailleurs, j'ai eu une enfance pénible comme toutes les autres. Mais j'ai gardé ce sentiment de toute puissance et parfois je le vérifie.
Alors, plusieurs choses. Vous dites mégalomanie, mais les mégalomanes annihilent les autres et le grand autre.
Oui.
Pas vous. Donc, non. Vous n'êtes pas vraiment mégalomane, vous avez créé une forme de mégalomanie.
Je pense que j'ai inventé la mégalomanie gentille.
Modeste.
C'est, non, carrément.
Donc, c'est contradictoire dans les termes.
C'est tout à fait contradictoire, parce que c'est vrai que si on me rencontre au quotidien, je suis presque Cosette. Hein,
vous êtes une fille gentille.
Je suis une brave fille qui a la première arrivée le matin aux éditions Albin Michel, qui ouvre livreur. J'ai été dame pipi. Donc, je suis un étrange condensé d'humilité paroxystique et de mégalomanie pathologique.
Vous dites sous-marin. Marguerite oui. Duras disait puits noir. Est-ce tiens, pour tiens. Définir cette espèce d'instinct mystérieux qui fait que des choses ont besoin d'être énoncées par vous et couchées sur une page blanche ?
Ça correspond vraiment à une sensation physique. Quand je descends dans ce que j'appelle le sous-marin de l'écriture, c'est vraiment la sensation que j'ai. Je sens vraiment que je descends et que j'atteins des sensations physiques que je n'ai jamais éprouvé à d'autres moments de ma vie, mais pour avoir vu beaucoup de films de guerre qui se passaient dans des sous-marins, ça ressemblait à ça. Il y a cette espèce de même bruit. Je ne sais pas ce
Donc
que c'est.
Donc une sorte de silence sidéral.
Un silence sidéral avec une pulsation très particulière, une impression de pression très forte, des espèces de vertiges. Et les sensations que j'éprouve à ce moment-là en écrivant, sont vraiment, même le mot le plus simple écrit à ces moments-là, crée des impulsions extrêmes. C'est plus fort que d'avoir affaire à la réalité. C'est avoir un accès direct à une réalité beaucoup plus forte.
Est-ce qu'il y a une levée d'inconscient qui s'opère à ce moment-là ?
Je crois que oui. Je n'y connais rien à rien. Je ne connais pas le premier mot de la psychanalyse. Mais il faut croire que oui, parce que sinon ça ne me mettrait pas dans de telles transes. Les mots qui me viennent à l'esprit quand j'en sors et que je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait là pendant 4 heures ?» J'ai eu l'impression de racler. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai raclé au juste. Est-ce que j'ai raclé les fonds marins ou le fond de moi-même ? Mais j'ai l'impression d'avoir raclé quelque chose.
Dans votre dernier livre, Petroni, vous expliquez dans quelles circonstances vous écrivez.
Oui.
Où que vous soyez, oui. Même si c'est dans une chambre d'hôtel dans oui. une ville étrangère, oui. en l'occurrence Londres,
oui.
vous vous réveillez.
Je me réveille
sans
réveil, de toute façon à 4 heures du matin, parfois plus tôt, jamais plus tard, quel que soit le décalage horaire.
Vous mettez un pyjama.
Je mets mon pyjama nucléaire d'écriture parce que écrire me donne extrêmement froid. De toute façon, je trouve assez logique d'avoir une tenue particulière à revêtir quand il s'agit de descendre dans un sous-marin.
Et ensuite, savez-vous ce que vous écrivez ?
Pas forcément. Pas forcément, il y a eu des cas très extrêmes, comme quand j'écrivais Métaphysique des tubes. Je pense en particulier aux 40 premières pages de Métaphysique des tubes. Je sentais que j'étais violemment enceinte de quelque chose de très particulier. J'écrivais ce truc et il était question d'un tube. Et je me disais, mais de quoi suis-je en train de parler ? Donc pendant au moins les 3 premières semaines de rédaction de Métaphysique des tubes, j'ai écrit sans savoir le moins du monde de quoi même je parlais.
Donc vous avancez, quand relisez-vous ?
Je me relis de toute façon beaucoup en cours d'écriture, et puis quand j'ai fini le livre, je ne le relis plus, et j'ai un rituel de relecture à la fin de l'hiver, chaque année, quand il fait vraiment le plus froid de l'année, et quand j'ai la tête le plus froide. D'abord parce que j'ai besoin d'être froide par rapport à ce que j'ai écrit, mais j'ai aussi besoin que le texte ait perdu son odeur. Si je le lis avant ce délai, j'ai l'impression que le texte dégage une trop violente odeur de moi, et c'est très désagréable.
Donc Amélie Nothomb, c'est pas vous ?
Si, c'est moi, mais comme vous le savez, je est un autre, mais moi je dirais plutôt que je est beaucoup d'autres. Amélie Nothomb, c'est moi, mais c'est le composé de toutes ces sensations, de toutes ces inexistences, parce qu'il y a aussi tous les moments où je n'ai pas conscience d'exister. Je crois que le moment où je suis le plus moi, c'est quand même quand j'écris.
Combien avez-vous de je, J-E ?
Écoutez, j'ai pas compté, mais au moins un par livre. Or, je suis en train d'écrire mon 81e livre, donc au moins 81. Mais c'est pas fini, hein.
Et ça cohabite ? Ou alors ça s'annule.
Allez savoir. Il y a tellement de voix en moi. Je suis tout le temps au milieu de toutes ces voix. Je ne sais pas au juste lesquelles sont je et lesquelles sont d'autres. Mais je sais qu'il y a une espèce de cacophonie que j'essaie d'ordonner pour faire du bon son quand j'écris. Parce que c'est quand même l'une de mes principales quêtes quand j'écris. C'est de faire de tout ce brouhaha un son, je ne vais pas dire harmonieux, mais un son qui plaise à mon oreille. Bon, j'ai peut-être des goûts très particuliers.
Vous vous relisez à voix haute ?
Non, là, j'ai tellement horreur de mon organe. Quand je me relis dans ma tête, j'ai un autre organe, je parle de voix. Et la voix que j'entends dans ma tête, à ce moment-là, est une très très belle voix, qui n'est pas du tout celle que vous entendez. C'est une voix, je pense, de noble basse, qui est sublime et qui transcende mes textes. Je voudrais que les lecteurs puissent me lire avec cette voix de noble basse dont je peux me servir à l'intérieur de ma tête et malheureusement que je ne peux pas vous resservir.
Vous avez dit enceinte.
Oui.
Or, ça revient souvent dans plusieurs de vos livres.
Oui.
Vous êtes enceinte de vos livres.
Oui.
Pourquoi et comment ?
C'est la métaphore la plus adaptée que j'ai pu trouver. Par ailleurs, j'ai jamais été enceinte pour de vrai, donc j'ai jamais pu faire la comparaison.
Et pourquoi ?
Pourquoi j'ai jamais été enceinte pour de vrai ? Parce que j'ai jamais voulu.
Et pourquoi ?
Parce que j'ai toujours su que j'étais pas faite pour ça. J'ai jamais eu l'ombre d'un instinct de procréation, de cette procréation-là. Par ailleurs, je pense qu'il faut s'en féliciter parce que certains êtres ne sont tout simplement pas faits pour se reproduire. Vous m'avez vu, Laura Adler, vous me connaissez. C'est plutôt très charitable envers l'humanité de ne pas vouloir m'imposer une descendance et pauvres enfants.
Ben moi, je vous vois très bien en train de promener votre petit enfant dans les jardins publics, lui raconter des histoires. Il s'ennuierait pas ou elle s'ennuierait pas tous les soirs.
Non, je pense que je serais une mère abominable. Donc, je pense que j'ai bien fait de zapper cette case-là. Par ailleurs, pour mes procréations reconnues, donc mes 81 grossesses, j'en suis donc à la 81e, je pense que la grossesse est la bonne métaphore parce que ça dit quand même mon très peu de choix par rapport à ces grossesses-là. Il n'existe pas de planning familial pour ces grossesses-là. Hein, donc,
ça veut dire que vous ne choisissez pas ce que vous allez écrire ?
Ah non, je vous jure que non. Et c'est très curieux parce que je n'ai jamais su ce qui me mettait enceinte. Jamais je ne me dis « Tiens, je vais écrire sur ceci ». Non, je suis enceinte de ce qui vient, ça vient. Et c'est infiniment curieux. Et parfois, ce qui me met enceinte, c'est vraiment moins que rien. Mais une bribe de conversation entendue dans le bus entre deux individus que je ne connaissais pas, ça peut suffire. Et une fois que c'est en moi, il n'y a rien à faire. Ça doit être porté à son terme. Même si j'ai conscience que le bébé est nul, qu'il est affreux, qu'il n'y a rien à faire, il est là, il s'impose.
Vous êtes une écouteuse.
Je pense que c'est ça, oui.
En même temps, quand on regarde, alors je n'ai pas lu les 88 ouvrages parce qu'ils n'ont pas tous été publiés.
Dieu merci.
Donc déjà, question, comment choisissez-vous ceux, les bébés qui vont obtenir finalement la sanctification de la publication ?
Écoutez, j'essaie de me conduire comme une bonne mère. À la fin de l'hiver, lors de ce rituel de relecture annuelle, donc je relis les 3 ou 4 romans que j'ai écrits dans l'année, je choisis toujours parmi les romans de l'année pour la publication. Allez savoir pourquoi, je n'ai jamais le désir de retourner en arrière.
Donc les autres, c'est des morts-nés.
Ils ne sont pas morts, ils vivent. Ils sont dans mes boîtes à chaussures à Bruxelles et je pense qu'ils y ont une très bonne vie. Je pense être une bonne mère en ceci que je peux décréter lesquels de mes enfants sont destinés à la lumière et lesquels sont destinés à l'obscurité.
Mais ça veut dire que ceux que vous n'allez pas publier, vous les conservez tout de même.
Je les conserve et j'ai déjà pris des mesures testamentaires pour qu'après mon décès, ils soient conservés. Simplement qu'ils soient totalement hors d'atteinte, car il est hors de question de les publier après ma mort. Donc, à ma mort, mes manuscrits inédits seront coulés dans un gigantesque bloc de résine où ils seront, par le fait même, totalement protégés du regard d'autrui, mais en même temps totalement conservés.
Pourquoi même votre sœur ne pourra pas y avoir accès ?
J'aime beaucoup trop ma sœur pour ça.
Mais alors pourquoi cette pulsion d'écriture qui ne débouche pas sur forcément une naissance et une possibilité d'être lue.
Ah, mais attendez.
C'est comme une économie libidinale, alors. Quelque non, chose qui vous dépasse.
Non, non, il y a naissance. Il y a naissance dès lors que l'accouchement est fini. La publication est une autre forme de naissance. C'est une naissance officielle. Mais ce n'est pas forcément une naissance plus sublime que celle qui est réservée à ceux de mes enfants qui restent dans des boîtes à chaussures à Bruxelles. Je n'ai pas forcément plus d'amour pour ceux de mes enfants que je publie. La publication, c'est une officialisation de la vie d'un enfant. Mais parmi les livres que je ne publie pas, il y en a que j'aime tout autant, voire davantage, simplement. Et je pense, avec raison, je pense qu'ils ne sont pas destinés à être montrés. L'acte de publication est presque accidentel par rapport à l'acte d'écrire et pas du tout nécessaire. Les 10 premiers manuscrits que j'ai écrits, c'est-à-dire ceux que j'ai écrits entre l'âge de 17 ans et l'âge de 23 ans, non seulement je ne les ai jamais montrés, mais je n'ai même jamais pensé à les montrer. À l'époque, j'étais bien loin de me douter que je songerais à être écrivain un jour. Il a fallu mon gigantesque échec japonais, celui que je raconte dans Stupeur et tremblement, qui a fait de moi une dame pipi, à Tokyo, pour que je commence à me poser la question d'un devenir d'écrivain.
Donc finalement, vous avez été très étonnée du succès de votre premier livre.
Stupéfiée.
Et vous étiez ni rien ni personne.
Oui. Et stupéfiée.
C'est comme un conte de fées quand même, quand on y pense.
C'est un conte de fées très kitsch en fait, et peut-être de très mauvais goût. Mais que je vis avec beaucoup de joie.
Mais vous-même, vous y avez cru donc. À partir de quand avez-vous estimé que vous étiez un écrivain, Amélie Nothomb ?
J'ai deux réponses tout aussi sincères à cette question, à la fois tout de suite et jamais. Dès l'instant où j'ai senti à quel point il était nécessaire pour moi d'écrire, c'est-à-dire dès l'âge de 17 ans, j'ai senti que j'étais un écrivain. Maintenant, s'il faut juger d'après le résultat, c'est-à-dire le résultat est-il crédible ? Est-ce que ceci constitue une œuvre ? Alors ça, je ne l'ai jamais su, ni maintenant, ni jamais, et je ne sais même pas si je le saurai avant de mourir.
Aimez-vous Wittgenstein que vous citez ?
Le Tractatus a été très 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 important pour moi à un âge où j'avais des lectures beaucoup plus intellectuelles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je lis les livres pour le prix décembre. À l'époque, je lisais le Tractatus entre 16 et 20 ans. J'ai eu des lectures suprêmement intellectuelles. Ça s'est beaucoup calmé depuis.
On a l'impression que vous auriez pu dévier vers la philosophie.
Écoutez, quand je suis arrivée à Tokyo, quand je suis retournée à Tokyo à l'âge de 21 ans, je m'étais créé une carte de visite en japonais. Il était écrit dessus « Amélie Nothomb Sakka Tetsugakusha », c'est-à-dire « Amélie Nothomb, écrivain, philosophe ». Et je remettais cette carte de visite à tous les Japonais qui me regardaient avec une certaine stupéfaction. Ils voyaient une espèce de gros bébé qui leur remettait cette carte de visite. Mais en même temps, au Japon, on ne fait pas les choses par fumisterie, donc ils me croyaient. Et je pense que j'étais suffisamment étrange à l'époque pour donner le change.
Quand on lit certains de vos livres, et notamment, je pense, à Autobiographie de la fin, on se dit que quand même, très 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 petite, vous aviez la certitude que le monde était là, environnant, et que vous saviez peut-être pas l'apprivoiser, parce qu'il vous était particulièrement hostile, mais que cette certitude du monde vous habitait. Comment comprenez-vous cela ?
Toute petite, je parle ici d'avant mes 3 ans, j'avais en effet une conscience suraiguë du monde et de mon rapport au monde. Même si je n'étais pas sûre d'exister, j'avais une communication immanente avec le monde infiniment plus forte qu'aujourd'hui. Je n'ai cessé de me détériorer depuis et ça va certainement continuer. J'en reviens à ce que je disais au début de l'émission, j'étais en présence de Dieu. Et je me sentais indifférenciée de Dieu. Je me sentais comme un gigantesque œuf dur. Tout à la fois, j'étais en dehors du monde et j'étais le monde. Donc, cet œuf dur était Dieu en même temps. Les 40 premières pages de Métaphysique des tubes sont probablement ce que j'ai écrit de plus métaphysique de toute ma vie. Et c'est ma vision du monde et je n'ai jamais fait mieux.
Le mot métaphysique est très présent dans plusieurs de vos livres.
Oui, parce que je trouve que c'est mieux que la mystique. C'est ce qui, la métaphysique, depuis Aristote, on le sait, c'est ce qui suit la physique dans l'ordre des sciences. Donc, quand on a fini d'étudier la physique, on se pose la question de la métaphysique. Et quoi après tout ça ? C'est la science de la verticalité. J'ai toujours eu une relation verticale avec le monde, bien avant d'en avoir une horizontale. Je m'essaie maintenant à l'horizontalité, mais avec beaucoup, beaucoup de maladresse.
Est-ce la double vie de votre père qui peut-être expliquer votre vision du monde ? Vous expliquez que dans le jour, il était diplomate, et puis le soir, il faisait autre chose.
Le soir, il était chanteur de no. Il a été le premier don japonais au monde à être chanteur de no.
C'est quand même pas banal d'avoir un père comme ça.
C'est pas banal du tout. C'est vrai que j'avais le sentiment que mon père avait une double vie, et j'avais moi-même une double vie qui me culpabilisait pas mal, puisque j'avais deux mères. J'avais une mère belge et une mère japonaise. Et je les aimais toutes les deux autant. Et je ne savais pas s'il fallait le leur cacher ou pas. Heureusement, j'ai assez vite su qu'elle savait que j'avais cette double vie. Et finalement, j'ai eu une double vie assez tolérée très tôt. Je crois qu'il a dû m'en rester quelque chose. Et aussi la double vie de mon père, qui, elle, était revendiquée, parce que ça lui faisait une carte de visite extraordinaire d'être ambassadeur le jour et chanteur de no la nuit. C'est vrai que ça m'a vite donné l'impression de vivre sur deux plans. Il y avait une vie souterraine et une vie avouée. Et encore aujourd'hui, il y a la vie que je vis aux éditions Albin Michel. C'est là que je vais écrire mon courrier. Je ne peux pas écrire mon courrier au même lieu où j'écris mon roman. J'écris mon roman chez moi, aux petites heures, dans des tenues pas montrables, en transe, assise sur mes genoux.
Je croyais qu'il y avait un tabouret. Non, même pas.
Si, j'écris. Bon, quand je me suis mal exprimée, je ne suis pas assise à genoux, c'est-à-dire j'écris sur mes genoux en ceci que j'ai pas de table, c'est mes genoux qui sont à la table. Et puis après, je me porte une tenue décente et je deviens un être humain fréquentable et je me rends aux éditions Albin Michel. Donc il y a toujours ce sentiment de double vie.
Mais c'est parce que vous êtes devenue une écrivaine. Vous dites écrivaine ou écrivain ?
Oh, je dis ce qu'on veut. Moi, je dis écrivain, mais on dit ce qu'on veut, ça m'est complètement égal en fait.
En tout cas, vous êtes devenu un écrivain ou une écrivaine reconnue à tel point que vous êtes quand même une des rares, je pense une des seules, à part les éditeurs qui sont aussi auteurs par ailleurs, à avoir votre bureau dans une maison d'édition. Pourquoi et comment ? Et manifestement, vous en êtes très fière.
J'en suis très fière parce que je suis la seule écrivain vivant à ma connaissance à posséder un bureau chez son éditeur sans avoir la moindre responsabilité éditoriale. Et j'ai obtenu ce bureau par une méthode peu conventionnelle. Donc j'ai débarqué à Paris fin 97 et je n'avais à cette époque-là pas de bureau aux éditions Albin Michel. C'est à ce moment-là que j'avais acheté mon premier appartement à Paris. Donc j'avais un lieu pour écrire, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais incapable d'écrire mon courrier chez moi. Donc tous les jours, quand j'avais fini d'écrire mon roman, je me rendais chez mon éditeur pour non seulement y réceptionner mon courrier, mais aussi le lire et y répondre. Or, comme je n'avais pas de bureau, je m'installais sur les marches de l'escalier, à l'entrée, ou dans la salle d'attente, ou aux toilettes, ce qui était beaucoup plus pénible pour les gens.
Ça, c'est votre côté dame pipi.
Voilà, puisqu'il y avait une seule toilette chez Albin Michel, donc les gens faisaient la file. Donc, et ce petit manège a duré 5 ans. 5 ans pendant lesquels les gens se disaient « Mais quel est son problème au juste ? Pourquoi vient-elle ici tous les jours ? Pourquoi s'assied-elle sur les marches de l'escalier ?» Bon, au terme de ces 5 années, très incommodée, et profitant du fait qu'une des jeunes femmes des éditions Albin Michel allait accoucher, mon éditeur m'a dit « Il y a là un bureau vide, installez-vous là et qu'on ne vous voit plus. N'en sortez plus, ne vous asseyez plus sur les marches de l'escalier. » Et je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Je suis allée m'asseoir dans ce bureau et je n'en ai plus délogé. Ce bureau qui est devenu un des plus gigantesques Capharnaüm qui soit chez Albin Michel. Mais dites-vous bien qu'avant de posséder ce bureau, donc avant 2002, ce Capharnaüm, je le transportais sur moi. Donc j'avais des sacs à dos absolument gigantesques quand je me rendais chez mon éditeur. Je pense que j'étais en voie de clochardisation, tandis que maintenant j'ai simplement un bureau qui ressemble à une installation qu'on pourra vendre à Beaubourg un jour.
Mais pourquoi vous déplaciez avec tous ces petits objets fétiches? C'était comme des petites cavernes, des petits doudous, des petits fétiches?
Non, c'était ses courriers. C'était mon courrier.
Pourquoi répondez-vous à toutes les lettres
que
vous
recevez? Je ne réponds pas à toutes les lettres. Je réponds à 9 lettres sur 10, ce qui est déjà colossal. Je ne réponds pas à ce qui est vraiment trop bête ou vraiment trop irrespectueux. Mais 9 lettres sur 10, dans mon cas, ça fait quand même beaucoup. Ben, je réponds, j'ai envie de dire, je réponds parce qu'on m'écrit. C'est pas moi qui ai commencé. Donc je reçois ces lettres, ça me fait toujours un effet fou que des gens m'écrivent. C'est dingue, ça. Et dans l'immense majorité des cas, ce qu'on m'écrit est vraiment très intéressant, ou très émouvant, ou très singulier, et vraiment mérite une réponse. Donc je réponds pour cette raison-là, que ce que je reçois mérite vraiment une réponse.
Mais c'est sans fin, parce que votre réponse entraîne de nouveau une autre lettre.
Oui. Alors là, je suis mal barrée. Hein. Je suis très, très mal barrée. Je suis un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est peut-être que je suis simplement un message à l'usage de tous les autres écrivains. Surtout, ne faites pas comme moi, sinon vous allez finir parfaitement débordé.
Pourquoi tombez-vous aussi souvent amoureuse, et ce depuis votre enfance, et particulièrement des filles ?
Oh, je ne tombe pas si souvent amoureuse que ça, il ne faut
pas
exagérer.
Ah bah si, quand on lit vos livres, je vous assure.
Ah bon ?
À chaque fois, il y a un amour.
Bah oui, fou. Enfin, écoutez, ça
va. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez, amour fou.
Oui, mais de là à tomber si souvent que ça, je n'ai quand même pas à ce point l'impression d'être un cœur d'artichaut. Écoutez, la beauté me fait beaucoup d'effets. Voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse vous dire. La beauté me fait beaucoup d'effets. La beauté n'est pas forcément féminine, elle est parfois masculine, mais c'est vrai que si je dois faire des statistiques, elle est plus souvent féminine que masculine, du moins pour mon goût. Mais ce n'est pas une obligation qu'elle soit féminine. Voilà, je tombe amoureuse de ce qui est très beau. Je ne peux pas vous dire mieux.
On va écouter Arnaud. Vous aimez ?
Oh, j'adore.
Elle a tout perdu, mais elle a bien vécu. Obligée d'être gentille quand on est pauvre et petit. Elle est trop jeune pour crever, elle est trop vieille pour voler. Mais elle se sent vide comme un condom de vieux pépé. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme. Tomber amoureux, c'est comme un mal de tête. Ça vient et ça passe, c'est ça qu'elle m'a dit. Il faut soigner les pauvres et les moches aussi. C'est ça qu'elle m'a dit une fois dans un lit. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché
Mes parents louaient à 1h15 de voiture de New York une cabane de bois perdue dans la grande forêt où nous passions souvent le week-end et une partie des vacances. Le jour, nous marchions jusqu'à un ranch presque fantôme où un type hagard nous laissait monter ses chevaux. Nous nous aventurions dans la forêt. À la saison chaude, nous fut donné le loisir le plus formidable, nager avec les chevaux. Nous les montions à cru et entrions dans le lac sans quitter leur dos. Le moment grandiose était quand ils perdaient pied et commençaient à nager pour de bon en agitant leurs jambes, tête vers le ciel. Il fallait alors s'agripper de tous ses bras à leur encolure pour rester une cavalière. L'hiver, il tombait des mètres de neige. Nos montures nous menaient au plus profond de la blancheur. Juliette et moi, nous nous regardions parfois, effarées d'être si heureuses. Oui, il y avait de quoi avoir peur. Peur de quoi ? Je n'en savais rien. Voici ce que vous écriviez dans « Biographie de la faim », Amélie Nothomb. Et là, à partir de ce court fragment, on peut parler de votre style. Un style à la fois très direct, très frontal, et en même temps où le lecteur est invité à un voyage sensoriel et où on sent, où on rentre dans une espèce d'arche de sensualité. Est-ce que c'est votre mémoire sensorielle qui prédispose au processus de l'écriture ? Par exemple, cette histoire des chevaux dans l'eau,
oui, oui.
Accrue, etc. Quand on vous lit, on a tellement envie d'avoir vécu la même chose que vous.
Mais tant mieux, je voudrais croire que quand on me lit, on vit la même chose que moi. Ben oui, c'est exactement ce que vous dites, c'est la mémoire sensorielle, c'est cette sensation très particulière qu'on a justement quand on perd pied. Et perdre pied est une chose qui m'est souvent arrivée dans ma vie, déjà en me noyant moi-même, mais encore plus quand on perd pied sur un cheval. Alors ça, c'est perdre pied au cube. Du coup, la sensation est tellement vertigineuse et l'amour sensuel qu'on peut avoir pour ce cheval auquel on peut se raccrocher est si forte que retranscrire ça dans un livre, pouvoir déjà se le redonner à soi au moment où on l'écrit, ça c'est très 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 fort. Écrire, c'est comme une technique de ralentissement sensoriel extrême qui va permettre de le revivre enfin. Dans la vie, tout va trop vite. Quand on écrit, on peut le ralentir et du coup, on peut enfin le revivre.
Combien pensez-vous avoir de cycles d'écriture ? Parce qu'au fond, il y a l'autobiographie, il y a l'autofiction, c'est pas tout à fait la même chose, on va y revenir. Et puis, il y a les livres qui viennent d'ailleurs. Vous parliez de métaphysique des tubes, mais il y en a d'autres aussi.
Écoutez, j'ai pas compté. Je vois bien que, vu de l'extérieur, tout ceci a l'air d'être des cheminements très différents. Honnêtement, vécu de l'intérieur, c'est toujours la même chose. Il s'agit de se laisser posséder par une voix. Et cette voix est parfois ma voix la plus quotidienne. Alors, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'autobiographie. Parfois, un jeu un peu différé, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'autofiction. Parfois, un jeu beaucoup plus reculé, voire même complètement inconnu, qui peut même s'exprimer à la troisième personne du singulier. Mais franchement, vécu de l'intérieur, j'ai tout le temps l'impression que ce que j'écris est un composé de mes souvenirs les plus intimes et de mes fictions les plus intimes. Je trouve d'ailleurs que opposer fiction et autobiographie, c'est très, très, c'est très artificiel. Quand je vois la part de fantasme qui fait partie de mon quotidien depuis ma plus tendre enfance, comment est-ce que je peux dire que ces fantasmes ne font pas partie de mon autobiographie ? Je les ai tellement vécus, je me les suis tellement administrés. Ils font partie de moi. Et bien sûr, c'est ce que j'écris dans les autres livres. Mais j'ai vécu tout ça. La scène du taureau dans Attentat, je l'ai vécu. Alors évidemment, ça ne fait pas partie de mon autobiographie. Mais j'ai été le taureau et j'ai été la martyre. Et j'ai été les Romains qui regardaient tout ça dans l'arène. Donc, pour moi, c'est une seule et même chose.
Est-ce parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de vous, beaucoup de voix, V-O-I-X, qu'il faut que vous ingériez beaucoup de liquide ?
Je pense que c'est pour ça. Bon, de toute façon, à la base, c'est simplement une nature. Je suis du style à avoir tout le temps soif. Maintenant, autant que possible, je bois surtout tôt le matin, une énorme quantité de thé et puis une énorme quantité d'eau. Après, je me calme, histoire de recommencer à avoir soif, parce que je recommence le soir, mais avec surtout du champagne. Et y a rien à faire pour boire beaucoup de champagne, c'est bon d'avoir très soif, donc il faut que la soif recommence. Mais je sais pas, je pense que j'ai besoin de contenir beaucoup de liquide parce que je suis toujours très fort en mouvement en moi. Faut que ça circule en moi et hors de moi.
Comme une physiologie des humeurs à l'intérieur de vous.
Voilà.
Qu'on retrouve dans votre écriture d'ailleurs.
C'est exactement. Je pense que j'ai un corps qui est pas du tout moderne et finalement le dessin de mon corps doit être assez conforme à l'idée qu'on se faisait de la physiologie dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge.
Mais vous avez un corps moderne, vous êtes mec comme un clou, comme les mannequins qu'on voit partout sur les affiches et dans les journaux féminins.
Oh, mais certainement pas de la même manière.
Donc, vous choisissez ce côté gothique?
Non, j'ai rien choisi du tout, mais je pense que je devrais donner mon corps à la science. Donc c'est dommage parce que je vais mourir dans très très longtemps, je pense que j'ai une très grande longévité. Et donc,
pourquoi c'est inscrit dans votre destin familial, ça?
Pas du tout, mais je le sens pour moi. Je ne sais pas pourquoi je me sens extrêmement solide.
Bah, vous savez, en buvant autant de champagne tous les soirs, je ne suis pas sûre que vous deveniez centenaire. Hein.
Mais
ce n'est pas le meilleur moyen,
en tout cas. Pourvu que vous ayez raison, parce que l'idée de cette longévité m'accable considérablement. Mais c'est un instinct que j'ai par rapport à moi. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut donner mon corps à la science, parce qu'à mon avis, on va avoir des surprises. Lors de la grande dissection de mon corps, on va se rendre compte que c'est... Voilà, qu'il y a place pour un corps pareil dans l'humanité.
Ah, parce que vous pensez que vous avez un cerveau plus grand que les autres?
Ah non, je pense même pas à mon cerveau, là. Je pense à mes entrailles. Je suis sûre qu'elles sont pas normales. Je le sens, alors, j'ai toujours... Bon, je suis désolée de ce que je vais dire, mais je sens que j'ai ce que j'appelle le brocoli intérieur. Je pense que j'ai un brocoli dans mon ventre, je le sens. Je sens sa présence.
Un brocoli ou un nénuphar? C'est plus romantique, un nénuphar.
Non, mais ça, le but n'est pas d'être romantique, c'est vraiment ce que je sens. J'atteins des états de vacuité extrême où je peux vraiment descendre à l'intérieur de mes tripes. Je sens ce brocoli, donc je pense qu'à la place d'organes digestifs, j'ai un espèce de grand brocoli qui broie les aliments et qui absorbe l'eau que je bois.
Vous avez étudié le bouddhisme ?
Pas du tout. J'ai vécu dans beaucoup de pays bouddhistes, mais je ne sais pas si ça a eu une influence sur moi. Sans doute, oui. Mais vous savez, les plantes, c'est fou ce que c'est fort, en fait. Peut-être que je suis une plante.
Laquelle?
Ben, s'il y a un brocoli à l'intérieur de moi, peut-être qu'à l'extérieur, je pourrais accéder, vous savez, à l'autre stade du... Comment est-ce qu'on appelle ça, cette espèce de chou? Il y a un autre chou qui n'est pas le brocoli, qui est... j'ai oublié son nom.
Les choux verts, là, les romanesco?
C'est voilà, romanesco, c'est ça, le chou romanesco.
Oui, c'est joli.
Ben ça suffirait pleinement à mon ambition d'être un chou romanesco.
Comment parvenez-vous à maintenir une assaise quotidienne pour pouvoir atteindre l'ivresse? Je pense notamment à votre dernier ouvrage, Pétronille, où vous nous expliquez en détail comment vous avez mis du temps d'ailleurs pour comprendre.
J'ai mis du temps. D'abord, il a fallu que je fasse preuve d'un très 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 grand esprit d'expérimentation. Ça fait partie de moi. Là. L'esprit d'expérimentation m'a toujours habité et je peux aller très 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 loin pour expérimenter un truc. Donc une fois que j'ai expérimenté la meilleure ivresse et que j'ai trouvé ce cheminement, alors ce qu'il me faut tout simplement maintenant, c'est une volonté de faire. Parce qu'il faut bien le dire, pour tenir à ce régime, il faut vraiment une sacrée volonté. Mais vous n'imaginez pas la volonté qu'il me faut pour être moi. L'autorité qu'il me faut sur moi-même pour être moi. Je vis dans un régime fasciste à la première personne du singulier que je ne souhaite à personne. Par contre, quand je parviens à mon ivresse, et j'y parviens quand même au moins un jour sur deux, je me dis que ça valait la peine tout ça.
Mais l'autre jour, vous buvez quand même, sans y parvenir.
Pas forcément. Il faut qu'il y ait relâche. Il faut aussi qu'il relâche une fois de temps en temps, parce que sinon je meurs.
L'ivresse, c'est pas seulement parvenir à un état d'ébriété chez vous. C'est aussi avoir un rapport autre avec votre propre corps.
Oui.
Par exemple, je pense à une page de Pétronille où vous dites que quand vous chutez sur un canapé,
oui.
un peu, que quand la tête vous tourne un peu, tout d'un coup, vous sentez de manière très particulière votre peau par rapport au contact du tissu.
Ah oui. Et ça, il ne faut même pas forcément être ivre d'alcool pour ça. Quand je parviens à certains états de conscience, et je ne sais pas forcément comment j'y parviens, alors c'est vrai que le simple fait de porter des vêtements peut devenir une transe. De sentir à ce point l'intimité du tissu sur moi, surtout si c'est un tissu délectable. Mais je peux atteindre une jouissance mais absolument effrayante. Mais il y a plein d'états de conscience inexplorés que je trouve parfois par accident, et qui peuvent rendre la vie, qui peuvent créer des ébriétés, même sans alcool, tout à fait formidables. J'ai eu ça l'autre jour, je me rendais à une dédicace dans Paris. Jusqu'ici, rien que de très commun, je me rends très souvent à des dédicaces dans Paris. Et là, tout à coup, j'ai été, pendant au moins une heure et demie, habitée de l'idée que j'allais être assassinée avant d'arriver à la dédicace. Et je ne parvenais pas à me départir de cette idée que j'allais être assassinée. Et finalement, je me suis retrouvée dans la rue et tout à coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas été assassinée.
En êtes-vous sûre ?
Et j'en ai éprouvé une ébriété formidable. Tout était extraordinaire. Je suis arrivée à cette dédicace déjà ivre, sans que les gens le sachent. Et puis, j'ai bien sûr beaucoup trop bu à la dédicace, mais l'essentiel de mon ébriété venait de la sensation très profonde que j'avais réchappé à une tentative d'assassinat.
Donc, pas besoin de boire du champagne tous les soirs, au
fond. Non, il y a bien d'autres ivresses, y compris toutes celles que je n'ai pas encore imaginées.
On vous sollicite beaucoup, vous refusez tout. Une fois, ça vous est arrivé, et vous vous demandez d'ailleurs peut-être encore pourquoi, d'accepter. Peut-être parce que c'était Londres, parce que vous n'aviez jamais été à Londres, parce qu'on vous proposait d'aller rencontrer une dame de la mode qui est un peu gothique comme vous, Vivienne Westwood.
Vivienne Westwood, que j'admire terriblement.
Quelle
vraie garce. Et en même temps, je ne regrette pas de l'avoir rencontrée, parce que d'abord, c'est vraiment un personnage. Enfin, dans mon livre, on le sent, quel personnage. Et puis, vous savez que je crois qu'elle a lu mon livre, parce que dernièrement, elle a sorti son autobiographie. Et tous les journalistes qui sont allés la rencontrer m'ont dit mais qu'est-ce que vous nous avez raconté ? Cette femme est délicieuse, elle est absolument charmante. Et ben moi, je pense qu'elle a lu mon livre et que ça l'a fait réfléchir. Donc, vous voyez, je fais progresser l'humanité incontestablement. Je pense que, voilà, Vivienne Westwood a lu mon livre et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été une vraie peau de vache avec moi et que maintenant, elle pouvait devenir une vieille dame tout à fait agréable.
Vous acceptez qu'on dise qu'en lisant vos livres, on se tord de rire ?
J'aime beaucoup cette idée. C'est pas le but, mais ça, c'est un truc que j'ai depuis l'enfance. Déjà, quand j'étais petite, dès que j'ouvrais la bouche, mes parents étaient morts de rire. Et ça ne les a jamais quittés. Dès que je ramène quelque chose à la maison, dès que je parle à mes parents, ils sont morts de rire. Je pense qu'ils m'ont mise au monde pour ça. Alors, ce qui est très angoissant, c'est que je n'ai jamais compris au juste ce qui les faisait rire. Bon, en même temps, j'aime bien cet effet. J'aime, mais je ne sais pas d'où ça vient.
Ben, merci beaucoup, Amélie Nothomb.
Merci de l'avoir compris.
Et on n'a pas parlé de votre famille, il faudra recommencer. Merci infiniment. Donc je rappelle que tous vos livres sont publiés chez Albin Michel et que le dernier, vraiment il faut le lire si jamais vous ne l'avez pas encore lu, parce qu'il s'est vendu à combien d'exemplaires déjà ?
Oh, très très bien.
Ouais, vous en fichez, en faux.
Du moment que le directeur commercial continue de me tenir à la porte, ça veut dire que les ventes sont très 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 bonnes.
Et vous avez votre petit bureau toujours.
Et que j'ai mon petit bureau.
Donc le dernier s'intitule Petronis et chez Albin Michel. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Vincent Lecomte, Philippe Palares, Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.